Des sauts et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invitée aujourd'hui sera Anne-Cécile Robert, docteur en droit, spécialiste de l'Union européenne et journaliste au Monde diplomatique. Convention puis Constitution européenne, référendum ou pas référendum? Je suis allée voir donc Anne-Cécile Robert au Monde Diplo pour parler avec elle de l'Europe. Alors je dois être un peu comme tout le monde, en fin de compte je sais pas trop comment ça marche l'Europe. Alors c'est par là que j'ai commencé, c'est la première question que je lui ai posée. L'Europe, ça marche comment?
L'Europe, comment ça marche? Vaste débat. C'est vrai que la construction européenne apparaît comme une construction loin des peuples. Et c'est vrai qu'elle l'est, puisque historiquement, son fonctionnement est géré entre, d'une part, les représentants des gouvernements nationaux et, d'autre part, des technocrates ou des techniciens qui sont notamment rassemblés au sein de la Commission européenne. Ce n'est qu'après qu'on a construit un Parlement européen qui n'est pas pour l'instant un véritable Parlement tel qu'on peut les connaître chez nous, dans nos démocraties nationales, mais qui existe quand même et qui joue un certain rôle. Donc l'Europe fonctionne encore largement entre des politiques, des gouvernements, et tout le problème c'est de savoir quel contrôle on a sur nos gouvernements lorsqu'ils agissent à Bruxelles. Souvent on ne sait pas d'ailleurs quand un de nos ministres va voter au Conseil des ministres, s'il vote oui, s'il vote non, s'il est d'accord avec la directive européenne ou pas. Donc il y a un problème de transparence. Et puis d'autre part, il y a la Commission européenne avec ses commissaires qui sont supposés agir au nom de l'intérêt général de la communauté européenne, c'est-à-dire au-dessus des intérêts nationaux. C'est leur mission fondamentale. Ils doivent définir, au-delà des intérêts particuliers, quelque chose qui serait l'intérêt général de tous les Européens. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, la construction européenne étant une construction essentiellement économique, leur activité, c'est surtout de promouvoir les règles du marché, les règles économiques, et pas les règles sociales, pas les règles en matière de culture.
Mais les commissaires européens, ce sont des technocrates, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas... D'où ils sortent et combien ils sont?
Alors, les commissaires européens sont choisis conjointement par les gouvernements des 15 pays membres de l'Union européenne, et par le Parlement européen. C'est un pouvoir intéressant du Parlement européen. Il approuve par un vote la composition de la Commission européenne. Alors c'est sans doute abusif de dire des technocrates, parce que disons que ce sont des fonctionnaires européens. Certains sont d'anciens ministres. Vous avez eu, souvenez-vous, Madame Edith Cresson pour la France, qui avait été Premier ministre, et Madame Papandréou, qui avait été ministre en Grèce. Donc ce sont des fonctionnaires qui sont indépendants des gouvernements, qui prêtent serment d'ailleurs, et qui sont supposés agir sans recevoir de consignes de leur état d'origine et agir au nom de l'intérêt de la communauté européenne.
Et eux, ils font des directives. Et c'est quoi une directive?
Alors ils font des propositions de directives et de règlements qui sont ensuite adoptées par le Parlement européen et par les ministres des 15 pays membres. Alors les directives et les règlements européens, c'est en gros l'équivalent des lois nationales. C'est-à-dire ce sont des textes de droit qui sont adoptés par les institutions de Bruxelles et qui, une fois adoptés, s'appliquent directement dans les États membres. Et c'est la spécificité d'ailleurs de l'Union européenne par rapport, par exemple, aux Nations unies, c'est que les règles de l'Union européenne s'appliquent avec la même force que des lois nationales. Alors vous voyez bien le problème pour les Nations unies. Quand les Nations unies adoptent une résolution, il n'y a aucun moyen de la faire appliquer, sauf si un pays décide d'envoyer une force armée. Il n'y a pas de force réelle des textes des Nations unies. Pour l'Union européenne, c'est exactement le contraire. Vous avez des règlements et des directives qui sont l'équivalent de lois. Et c'est pour ça que la construction européenne a une si grande force et s'est construite avec autant d'efficacité. C'est parce qu'on a prévu l'adoption de textes juridiques aussi puissants que des lois.
C'est la Commission qui a l'initiative de ces lois, pour ainsi dire?
Oui, c'est la Commission européenne qui fabrique les textes et ensuite elle les propose au Parlement européen et au Conseil des ministres qui les adoptent.
Et qu'est-ce qui prévaut dans leur choix? Enfin,
Enfin, ce sont des fonctionnaires qui ont l'initiative de loi. Ça me semble un peu étrange.
Bah, c'est-à-dire qu'on avait prévu que, comme la Commission européenne est chargée de l'intérêt général de l'Union européenne, c'est elle qui devait un petit peu penser les textes de loi qui devaient s'appliquer à tous les Européens. C'est pour ça qu'on lui attribue ce pouvoir de rédiger des propositions de textes. Mais on ne lui a pas accordé le pouvoir de les adopter. L'adoption, sauf dans le domaine de la concurrence, l'adoption, donc sauf dans le domaine de la concurrence, relève des ministres et du Parlement européen, la Commission européenne étant obligée, lorsqu'elle fait une proposition de directive ou de règlement, elle est obligée de le faire conformément à ce qui est écrit dans les traités. C'est-à-dire elle ne peut pas inventer du jour au lendemain, dire, tiens, je vais faire un texte dans le domaine, je sais pas moi, de la protection des animaux, si ce n'est pas écrit dans le traité. Donc elle est contrainte par le traité, et si jamais elle outrepasse ses pouvoirs, elle peut être condamnée par la Cour de Luxembourg.
Quand vous dites, sauf dans le domaine de la concurrence, là,
elle a un pouvoir autonome.
Main libre ?
Tout à fait. Elle a reçu un pouvoir autonome dans le domaine de la concurrence, et c'est pour ça qu'on entend souvent parler d'elle lorsqu'elle sanctionne une entreprise, ou lorsqu'elle condamne un État, comme c'est le cas du gouvernement français, pour non-respect des règles de la concurrence ou des règles budgétaires. C'est qu'elle a reçu ces pouvoirs-là en propre.
Et pourquoi ?
Parce qu'on a estimé, alors ça fait partie de la mythologie européenne, on a estimé que la concurrence faisait partie du socle de la construction européenne et que donc on pouvait l'attribuer à la Commission toute seule. Alors ceci dit, elle n'est pas non plus la bride sur le cou. Hein. C'est-à-dire que, si elle, comme je vous disais tout à l'heure, si elle outrepasse ses droits, elle peut être condamnée par la Cour de Luxembourg. Donc elle est tenue de respecter ce que disent les traités. Mais elle est un petit peu, si vous voulez, le gendarme du marché commun. Et elle a des pouvoirs de police qui lui permettent de sanctionner un État ou une entreprise qui n'agirait pas conformément aux règles du marché commun.
Et le Parlement européen, finalement, c'est quoi son pouvoir ? Parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai lu quelqu'un dont je vois pas ce qu'il peut faire, le pauvre.
C'est vrai que c'est un peu le parent pauvre de la construction européenne. Au départ, quand on a fait l'Europe, on s'est pas du tout préoccupé de démocratie. On était simplement préoccupé de savoir si les États conserveraient leur souveraineté. Donc l'idée d'un Parlement, on s'en fichait. Et c'est pour ça qu'historiquement, le Parlement n'a que le pouvoir de donner un avis. Donc il donne un avis sur les textes, mais à la limite, les autres institutions peuvent s'en fichent. Et ce n'est que progressivement qu'on va lui donner un pouvoir d'influence qui va s'agrandir. Alors c'est toujours pas le pouvoir de voter lui-même les lois européennes. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est que c'est un Parlement qui ne fait pas la loi au sens où le fait un Parlement national. C'est un Parlement qui peut faire des amendements aux directives et aux règlements proposés par la Commission. Il peut faire des propositions de modification de texte. Et le maximum qu'il puisse faire, c'est si vraiment il n'est pas d'accord avec le texte, il peut empêcher le texte d'être adopté. Mais ce n'est pas lui qui peut le fabriquer. Si vous voulez, le pouvoir traditionnel d'un Parlement national, c'est de fabriquer une loi. Vous avez une commission qui se réunit, qui rédige une proposition de loi, souvent conjointement avec le gouvernement, et ensuite le Parlement adopte la loi. S'il n'est pas d'accord, il n'adopte pas la loi. Dans le système européen, c'est pas ça. Le Parlement contribue à l'élaboration de la loi européenne en faisant des amendements et des modifications, mais c'est pas lui qui a le dernier mot sur le texte. Il est obligé de partager ce pouvoir avec le Conseil des ministres qui, au bout du compte, adopte le texte.
Des sous et des hommes, et on va être encore en compagnie d'Anne-Cécile Robert, mais vous aurez peut-être remarqué d'une part qu'elle a un très agréable bureau, ça je vous le dis, mais très sonore, et surtout il y a de petits bip-bip qu'on entend de temps en temps, alors ça veut dire qu'Anne-Cécile Robert reçoit des emails. Ne vous inquiétez pas, j'espère qu'elle y répond. En tous les cas, notre conversation continue sur l'Europe, toujours.
Ce que vous me dites là ne semble pas toujours rassurant, mais pourtant il me semble qu'au départ la construction européenne s'était faite dans un bel esprit pour favoriser la paix notamment.
Tout à fait, c'est dans les années 45-50 qu'on a pensé la construction européenne pour empêcher les guerres. C'est vrai qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale avec ses millions de morts, l'Europe était complètement détruite. Donc l'idée des pères fondateurs, comme on dit dans la mythologie européenne, c'est-à-dire Jean Monnet et Robert Schuman principalement, deux Français, c'était d'assurer la paix entre les Européens. Et même très précisément dans l'idée de quelqu'un comme Jean Monnet, qui était un économiste, un fédéraliste convaincu. Son idée, c'était de créer une construction européenne qui serait irréversible. Et il a pensé la construction européenne comme quelque chose de progressif qui s'approfondirait sans arrêt, de manière à ce que, au bout du compte, les Européens ne puissent plus se séparer les uns des autres. Et il a dit, on va commencer par faire l'économie. Donc au départ, c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ensuite, on fera un marché commun général. Ça a été le cas de la communauté économique européenne. Ensuite, on passera à la monnaie. Et ensuite, pour Jean Monnet, on devait passer à l'Europe politique, faire une Europe fédérale, une Europe des citoyens. Et son système a fonctionné jusqu'à, on peut dire, jusque dans le domaine économique. Et pour l'instant, c'est-à-dire qu'on est très lié dans le domaine économique, effectivement, on a même fait l'euro, mais on n'a pas réussi à franchir l'étape politique, c'est-à-dire faire une Europe politique qui soit proche des citoyens et qui soit une Europe à la fois démocratique et sociale. Et là, il y a une espèce de blocage. Dès qu'on sort du champ économique, les États membres ne sont plus d'accord. Et on n'arrive plus à approfondir la construction européenne. Ce qui explique le déséquilibre dans lequel on est aujourd'hui, entre une superstructure économique très puissante et un petit nain démocratique et social.
Parce que les États ont peur de perdre leurs prérogatives.
Alors c'est vrai, et en même temps, dans le domaine économique, ils n'ont pas peur de les perdre. C'est ça qui est étonnant. Remettre en cause sa monnaie, c'est quand même quelque chose de très grave pour la souveraineté. Il y a un décalage. Les États sont prêts à remettre en cause leur souveraineté quand il s'agit de l'économique. Mais quand il s'agit du social ou d'autres champs, bien là, ils n'osent plus le faire. Et c'est certainement là un problème tout à fait politique. C'est-à-dire que on est prêt à faire une construction économique, et pour l'instant libérale, mais on n'est pas prêt à faire une construction sociale et démocratique. Et ce blocage-là, à mon sens, ce sera les citoyens qui le dépasseront en l'imposant à leur gouvernement.
Pour le volet économique, il y avait une nécessité de faire une union, notamment pour empêcher la spéculation contre les monnaies. C'est du moins ce que j'avais cru comprendre à peu près.
Alors au départ, il y avait dans les années 50 l'idée de reconstruire l'Europe détruite par la guerre. Il y avait l'idée d'assurer la sécurité alimentaire, c'est pour ça qu'on a fait la politique agricole commune, qui est quasiment une politique soviétique à l'origine, hein, pas du tout libérale là pour le coup, puisqu'on contrôlait tous les prix, les marchés. Et puis après, effectivement, la question de la monnaie a émergé, parce que dans les années 70, le système monétaire international a été perturbé lorsque les États-Unis ont unilatéralement décidé de décrocher le dollar de l'or. Avant, le dollar était accroché à l'or, ce qui fait qu'il était stable. À partir des années 70, il s'est décroché, ce qui fait que les monnaies ont flotté. Et on a abouti à un système très instable où en plus, pour nous, Européens, les monnaies européennes se faisaient concurrence les unes les autres. Donc il est apparu l'idée de faire une monnaie unique qui assurerait la stabilité monétaire de l'Europe. Alors il faut quand même rappeler qu'on a longtemps débattu de savoir s'il fallait faire une monnaie unique ou une monnaie commune. Alors ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est très important parce que la monnaie unique dans laquelle on est aujourd'hui impliquait la suppression des monnaies nationales. Donc les fameux critères de convergence, il fallait que tous les pays se soumettent aux mêmes règles économiques, ce qui était d'une brutalité sans nom, puisqu'on demandait par exemple à un pays comme le Portugal ou la Grèce de se soumettre aux mêmes règles qu'un pays puissant comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ce qui explique l'addition sociale terrible qu'on a payé dans les années 90. La monnaie commune présentait l'avantage de conserver les monnaies nationales, donc on évitait le scénario uniformisateur précédent, et on avait une monnaie commune qui permettait à l'Europe de gérer ses échanges avec les États-Unis ou le Japon, et éventuellement de régler les échanges entre pays européens. Et on a choisi la monnaie unique pour des raisons complètement idéologiques, parce que à l'époque, c'était aux États-Unis ce qu'on appelle l'idéologie monétariste qui disait qu'il faut une monnaie unique absolument, il fallait faire ça. Mais on aurait très bien pu faire la monnaie commune.
Est-ce que une des raisons, en tous les cas, ce qu'on essaye ces derniers temps de nous faire passer, ce qu'on a essayé de nous faire passer par Maastricht, c'est qu'il est important de faire l'Europe pour faire un contrepoids aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ?
C'est vrai que c'est ce qu'on nous avait dit au moment de Maastricht, mais malheureusement, on constate que c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire, on a effectivement des instruments de puissance, c'est ça qui est terrible, c'est que l'Europe est très puissante, elle est riche, c'est la première puissance commerciale du monde, l'euro est la première monnaie du monde, mais tout ça ne donne pas une pensée politique, tout ça ne donne pas une vision politique. Et ce qu'on constate, c'est que l'Europe est politiquement désunie, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas quoi faire de son beau jouet, de ses belles institutions, de sa puissance économique, parce qu'elle n'a pas de vision politique. Et c'est pas en multipliant les instruments, faire une constitution, faire de nouveaux instruments économiques, on aura cette vision politique. Une vision politique, ça se construit. Et l'un des problèmes de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais de débat politique de fond sur pourquoi on veut faire l'Europe, pourquoi on est ensemble, quelles sont les valeurs de l'Europe qui la distingueraient, par exemple, des États-Unis, quel est le grand projet européen qui permettrait aux citoyens de tous les pays de s'y reconnaître et qui justifierait finalement tous les sacrifices qu'on nous fait faire depuis longtemps.
Des sous et des âmes toujours, et c'est, là c'était Brassens pour la musique, et ça nous reposait un petit peu peut-être de ce que nous disait Anne-Cécile Robert, qui décidément a tendance, mais c'est assez souvent dans mes émissions, à me déprimer franchement. Donc la conversation continuait, et suite.
Finalement, quelles que soient les personnes que j'entends parler, enfin des journalistes, beaucoup, des hommes politiques, quelle que soit leur couleur politique, tout le monde finalement se dit d'une façon ou d'une autre européen, que ce soit pour défendre un espace économique, pour s'opposer aux États-Unis, certains prônent un modèle social qui serait européen. Moi, j'arrive pas tellement à comprendre qu'est-ce qui pourrait me pousser, moi, à me sentir européenne.
C'est vrai que c'est devenu un petit peu un discours obligé. On se proclame européen comme on se proclame républicain, mais finalement, comme on ne sait pas de quoi on parle, tout ça n'est pas très précis. On pourrait dire que les Européens ont de la chance d'avoir l'Union européenne, paradoxalement. Parce que quand on voit la jungle de la mondialisation libérale actuellement, avec tous ces pays, toutes ces populations qui sont jetées en pâture au marché, qu'on pense à ce qui se passe en Asie ou en Afrique, en Amérique latine, on peut se dire que nous, en Europe, on a construit des règles communes, des institutions qui pourraient nous permettre de construire un îlot de protection au milieu de la jungle de la mondialisation libérale. Alors le problème, c'est que nos institutions européennes ne sont pas pour l'instant mises au service de ça. Elles sont au contraire mises au service d'un approfondissement de la jungle du libéralisme et de la jungle des marchés. Mais le sens de l'histoire serait de faire exactement le contraire, c'est-à-dire de mettre les institutions européennes au service de la promotion sociale, au service de la promotion de règles permettant de réguler le système économique qui aujourd'hui fonctionne, j'allais dire, contre les intérêts des peuples. Mais ça, visiblement, c'est pas pour l'instant l'intention des gouvernements européens qui sont tous, qu'ils se disent de droite ou de gauche, ils sont tous ralliés à l'idéologie du libéralisme économique le plus bête qui soit. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant que citoyens, c'est nous battre pour imposer d'autres choix de manière à ce que la construction européenne soit mise véritablement au service des peuples. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on obtienne absolument un référendum sur la Constitution européenne, parce que ce sera notre manière à nous de dire « faites une vraie Europe, une Europe sociale, une Europe démocratique, qui ne sera pas forcément une Europe fédérale, on peut tout imaginer. Hein. Ça peut très bien être une Europe des États-nations, comme disait le général de Gaulle. Mais en tout cas, il faut que l'Europe mette sa puissance au service de la promotion sociale, au service de la démocratie, comme ça a été son sens historiquement. » Si on prend l'histoire de l'Europe depuis le XVIIIe siècle, elle a construit petit à petit l'État-providence, la protection sociale, des règles de solidarité. Eh bien, il faut qu'elle retrouve le sens de son histoire, parce qu'aujourd'hui, elle fait exactement le contraire de sa mission historique.
Mais est-ce qu'il y a un réel pouvoir possible des citoyens au sein de cette Europe-là ? Moi, j'ai l'impression qu'en permanence, les choses nous tombent sur la tête, d'en haut, de la Commission, et qu'en plus de ça, là-dessus, on nous prend un peu pour des imbéciles. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre le grand dessein qu'est l'Europe. Là, on essaye de nous dire, mais bon, décidément, vous ne pouvez pas décider ce qui va se passer par rapport à la Constitution. Est-ce que vous allez montrer votre désapprobation vis-à-vis de Chirac ? Moi, j'ai l'impression, finalement, d'une espèce d'Europe qui me méprise royalement.
Mais c'est vrai que, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on fait tout pour que les citoyens restent chez eux et qu'ils laissent un petit peu les gouvernements gouverner entre gens sérieux. Et ça, c'est pas possible. D'abord parce que la démocratie fonctionne pas comme ça. Hein. Et à un moment donné, on peut pas construire des institutions et un pouvoir si on n'a pas l'assentiment des peuples. Donc il faut pas se laisser impressionner par ce discours qui a un but politique, tout simplement laisser gagner l'idéologie libérale au service des intérêts des marchés et des entreprises. Donc on nous fait du terrorisme intellectuel, du terrorisme politique pour nous empêcher de penser librement en tant que citoyen. Mais il n'y a aucune raison de se laisser impressionner par ça. La démocratie ne vit d'ailleurs, il faut se le rappeler, que si tout le monde peut s'exprimer. Personne n'a a priori raison. C'est quand tous les points de vue de toutes les catégories sociales, de tous les corps de métiers, de toutes les professions, de toutes les couches de la société s'expriment, qu'on a une véritable démocratie. Et aujourd'hui, il faut absolument que le débat sur l'Europe se construise, parce que, un vrai débat, hein, non pas comme on a eu sur Maastricht, si vous votez pas pour ce texte, c'est le chaos. Non, il faut prendre le temps de débattre. Et éventuellement, si on dit non, ce ne sera pas une catastrophe. Hein. Si on dit non au traité, au prochain traité européen, à la Constitution, ce ne sera absolument pas une catastrophe, tout simplement parce que les institutions européennes existent depuis 50 ans. Elles sont solides. Simplement, si ce texte-là n'est pas adopté, ben on en fera un autre. Donc il ne faut pas du tout se laisser impressionner par ça. Si la Constitution européenne n'est pas adoptée, eh bien, on adoptera un autre texte, tout simplement.
Comment on pourrait faire une démocratie européenne? J'arrive difficilement à le comprendre parce que autant je peux me reconnaître, je vais vraiment ressembler de quelqu'un de très fortement nationaliste ces derniers temps, mais je peux me reconnaître dans l'histoire de la France, l'histoire sociale de la France en particulier. Je me reconnais, je pense que j'ai intérêt à cette démocratie parce que je suis capable de débattre avec les personnes qui sont en face de moi parce que j'ai la même langue, la même culture, les mêmes référents, ou en tous les cas, pas forcément les mêmes référents, mais parce que je suis ancrée par exemple dans une histoire plutôt à gauche personnellement, mais en tous les cas, on se comprend parce qu'on connaît l'histoire notre histoire commune. Comment ce serait possible pour l'Europe?
C'est vrai que la démocratie est liée historiquement à la nation, parce qu'effectivement, on a un sentiment de vivre ensemble et d'avoir des intérêts communs. Et une démocratie internationale, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Et en particulier la difficulté de l'Europe, c'est qu'il n'est pas évident pour un Portugais ou un Français de penser avoir les mêmes intérêts, le même avenir qu'un Autrichien ou un Suédois. Et effectivement, il manque ce qu'on appelle un espace public européen où l'Europe donnerait le sentiment d'avoir des intérêts communs, une vision commune. Alors, est-ce que de ça, il faut tirer la conclusion que l'Europe n'est pas possible ou que l'Europe n'est pas nécessaire? Pas forcément. En tout cas, il faut pas forcément voir l'Europe sur le modèle fédéral. C'est-à-dire l'idée qu'il faille faire de l'Union européenne un État. Il faut peut-être faire une association d'États. Peut-être que l'un des problèmes, c'est qu'on veut calquer sur l'Europe le modèle étatique et donc imposer aux citoyens européens une espèce d'État artificiel dans lequel ils ne se reconnaîtraient pas. Ça, c'est peut-être une erreur. Il faut peut-être penser l'Europe comme une association d'États-nations. Et dans un deuxième temps, il faut sans doute que l'Europe fasse un travail sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle définisse effectivement ses points communs et ses intérêts. Ça aurait pu être le cas de la guerre en Irak. Où, par exemple, la France, l'Allemagne ont défendu une vision du droit international. Ça pourrait être la mission de l'Europe, de dire « nous sommes les amis du droit international des Nations Unies ». L'Europe pourrait dire « nos valeurs, c'est le soutien aux pays du Sud, c'est la solidarité internationale et pas le marché ». L'Europe pourrait dire « notre identité, c'est le progrès social, pas la jungle des marchés ». Mais tout ça, ça se définit de manière concrète, au-delà des incantations. Donc il y a sans doute un débat à faire sur les valeurs européennes devant les citoyens.
Et donc c'était le Dessous et des Hommes avec Anne-Cécile Robert, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. À la semaine prochaine !